Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, Françoise Verna de La Marseillaise, pour évoquer avec elle, comme toutes les semaines, les grands titres de la une de La Marseillaise à paraître ce vendredi en kiosque. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Allez, on commence tout de suite avec le dossier de cette semaine sous forme d'interrogation. Vigneron est-il un métier d'avenir ? Moi je pense que oui.
Oui. Bah, nous, en fait, on pose la question, mais on a choisi quand même un angle où on apporte des réponses plutôt positives. Hein. Oui. Mais c'est pour répondre à cette question, vigneron est-il un métier d'avenir ? Ce qui nous a donné l'idée de traiter ce dossier, d'abord, la région Occitanie, le département de l'Hérault, ce sont des régions et départements très viticoles. Oui. Donc ça fait partie vraiment de l'économie régionale et départementale. Et nous sommes donc allés à la rencontre des vignerons d'aujourd'hui et de ceux qui désirent le devenir.
Oui.
En faisant intervenir des personnes qui en font l'expérience, qui se lancent dans le métier, et puis des vignerons aguerris qui font notamment partie des chambres d'agriculture et qui accompagnent. Voilà, donc c'est un dossier qui nous semble assez complet. Et on parle beaucoup à chaque fois du bilan, on va le faire aussi, hein, des récoltes, hein, donc des vendanges. Hein. C'est l'occasion de faire un zoom sur ce métier.
D'accord. Le deuxième point de cette une est consacré à l'action de la ville de Frontignan, car on le sait, le mois d'octobre est le mois dédié à la prévention du cancer du sein.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle octobre rose. C'est la couleur de ce mois de prévention pour prévenir donc ce cancer du sein, bon, qui touche énormément de femmes. Hein. Oui. Alors, on a choisi de présenter l'action de la ville de Frontignan parce qu'elle se mobilise énormément sur cette question à travers plusieurs événements grand public, hein, pour sensibiliser et pour évidemment faire reculer la mortalité, puisqu'on oui. sait que quand ce cancer est détecté suffisamment tôt, il se guérit à 99%. Donc c'est aussi un mois de l'espoir. Hein, c'est important, ce qu'on appelle dans notre métier, c'est-à-dire le marronnier, c'est-à-dire oui. des événements qui reviennent tous les ans. Il ne faut pas les banaliser, il faut faire des zooms et les inciter évidemment le public. Alors on a choisi Frontignan, mais c'est partout, hein, c'est partout. D'abord, c'est partout en France. Mmh. Et sans les communes, hein, ça ne vivrait pas comme ça le devrait. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire la ville de Frontignan, qui est très volontariste sur ce sujet.
D'accord. À lire aussi dans la prochaine Marseillaise, qui, je le rappelle, paraîtra ce vendredi, la première édition à Montpellier de la Nuit du Droit, qui se déroulera le mardi 4 octobre à la cour d'appel de Montpellier. Je ne savais pas que ça existait.
Et oui, tout à fait. Mais en fait, Montpellier, qui est une grande cité du droit, hein, historique, hein, qui a une grande université et qui enseigne toujours le droit. Donc, c'est pour la première fois à la cour d'appel de Montpellier, on va dire la communauté du droit s'est mobilisé pour mieux faire connaître et le droit, les principes et les métiers.
Oui.
Et ça va se faire de manière très vivante et très concrète, avec la tenue de procès fictifs,
oui.
des lectures théâtralisées de jugements ou de plaidoiries célèbres. Hein, donc ça va se faire dans des lieux. On va pouvoir notamment assister à la réédition du procès contre le poète Baudelaire et les
D'accord,
fleurs du mal.
Oui.
Donc voilà, donc c'est très intéressant. Il y a déjà énormément d'inscrits, donc il y a un véritable appétit pour mieux comprendre le droit. Puis c'est un service public, hein, on sait qu'il n'est pas toujours bien traité.
Mm-hmm.
Et donc c'est l'occasion de faire toucher du doigt au grand public ces questions qui le concernent au premier chef.
Mmh. Une belle initiative, je trouve. Sur le plan social, La Marseillaise revient en image sur les mobilisations dans l'Hérault et dans le Gard organisées par la CGT et la FSU et solidaire pour les augmentations de salaire.
Oui, ça va être la grande journée du jeudi 29 septembre.
Hein, oui.
Donc c'est une journée intersyndicale d'action autour de, on va dire, du partage de la richesse et de l'augmentation de salaire.
Mmh.
Mais nous avons, on y reviendra évidemment en images, hein, puisqu'il y a des manifestations un peu partout sur le territoire et notamment dans l'Hérault, à Montpellier et dans d'autres villes du département et dans le Gard.
Oui.
Et on a aussi donné la parole dans ce numéro aux représentants CGT, Héraultais et régionaux du secteur mine-énergie de la CGT. Donc ils vont exposer dans nos colonnes les propositions du syndicat, puisque nous traversons et nous vivons une crise de l'énergie très, très forte, hein, avec des augmentations de prix du gaz et de l'électricité en dépit du bouclier tarifaire qui est mis en place par le gouvernement, mais ça limitera à 15% ces augmentations, ce qui est énorme. Donc l'idée, c'est de vraiment d'expliquer à nos lecteurs, en donnant la parole aux travailleurs de ce secteur, les raisons de la crise, hein, donc ils expliquent, hein, et puis surtout la principale proposition qui est de sortir de ce marché de l'énergie qui génère de la spéculation,
oui.
Et donc l'idée de défendre un grand service public, et c'est notre marotte à la Marseillaise d'être en défense du service public, hein, pour tous, et en matière d'énergie, ça nous semblait intéressant de donner la parole à ces responsables syndicaux de l'Hérault et de l'Occitanie du secteur mine-énergie.
Côté culture, les Montpelliérains vont pouvoir reprendre le chemin de la librairie Le Grain des Mots qui, je crois, a subi de plein fouet les intempéries.
Oui, disons que Le Grain des Mots, c'est une librairie qui est très, très appréciée des Montpelliérains.
Oui.
La librairie indépendante, c'est vraiment des lieux qu'il faut défendre absolument. Et donc, la bonne nouvelle, c'est bon, évidemment, ils ont eu un dégât des eaux énorme qui les a obligés à fermer. Pendant plusieurs semaines au moment de la rentrée littéraire. Donc c'est pour vrai, pour les libraires indépendants, c'est des moments très très importants. Hein. Il y a énormément de livres qui sortent, ils peuvent défendre leur choix. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont réouvrir donc samedi 1er octobre. Ils changent juste toujours sur leur au boulevard du Jeu de Pomme, hein, mais ça sera au numéro 15. Et donc ils attendent évidemment impatiemment les clients qui peuvent renouer avec leur librairie, et on tenait à faire savoir à nos lecteurs et aux auditeurs de Divergence qu'on pouvait de nouveau faire son choix de livre au Grain des Mots à Montpellier.
Et pour finir, la Marseillaise se rend dans le Gard et plus particulièrement à Nîmes pour dévoiler la programmation d'un lieu qui tient à cœur, le Triptyque Théâtre.
Oui, alors le Triptyque Théâtre, c'est la maison des littératures à voix haute qui a été créée par Denis Lannoy, qui par ailleurs, Denis Lannoy est un chroniqueur régulier de l'hebdo.
Oui.
Mais donc il y a deux temps forts, vraiment la saison va commencer le 6 octobre, et l'ouverture de la saison justement va se faire autour d'une écrivaine italienne, sicilienne, Goliarda Sapienza, qui a été connue en France avec L'Art de la Joie, qui a été un événement littéraire majeur. Elle a été, je pense, publiée en France avant d'être publiée en Italie. Ça, c'est pour la petite histoire.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y aura donc sa traductrice qui sera là. Ça sera la première quinzaine qui sera consacrée à cette écrivaine, évidemment italienne, au moment où on a la droite et l'extrême droite qui viennent de gagner les élections législatives en Italie. C'est important de parler de l'Italie et de la force de la littérature contre l'obscurantisme des idées rabougries du fascisme qui reviennent malheureusement en force là actuellement au début de notre siècle. Hein. Mmh. Et en décembre, le Triptyque Théâtre, là c'est aussi un rendez-vous important, il va rendre hommage à Louis Aragon pour le 40e anniversaire de sa disparition. Alors l'intérêt de fréquenter et d'aller découvrir le Triptyque Théâtre, c'est de se familiariser avec la littérature, comme ils disent, à voix haute, et c'est toujours des grands moments. Et donc évidemment, au-delà même de la ville de Nîmes, on peut de Montpellier aller découvrir ce lieu et la programmation du triptyque.
À la une de la Marseillaise, vous avez les titres, on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Le dossier de cette nouvelle édition de la Marseillaise se passera sous la forme d'interrogation. Françoise, vigneron, oui, est-il un métier d'avenir? Et moi, je rajouterais même vigneronne, est-il un métier,
oui,
d'avenir?
Oui, tout à fait. Puisque... Mais d'autant...
Allez-y.
Oui, d'autant plus que, oui, en posant cette question, notre volonté, c'est de lever le voile sur ceux qui font, encore une fois qu'on a notre verre de vin, c'est tout le travail qui est fait par ces travailleurs de la terre, de la vigne. Pourquoi un métier d'avenir? L'interrogation, c'est parce que on a affaire à un changement aussi climatique qui oblige les agriculteurs en général et vignerons en particulier à s'adapter. Mmh. Mais on a la chance d'avoir des vignerons qui s'endorment pas sur leur laurier, hein, et qui sont toujours en train de s'interroger.
Oui.
Et surtout, c'est une profession qui attire, hein. Et vous avez raison de parler de vigneronne, puisque nous avons, nous consacrons un article, un reportage à une jeune femme, Anne-Sophie Réfaux,
oui,
qui avec son mari, ils viennent de signer un compromis de vente d'un domaine, donc dans l'Hérault, dans l'appellation d'origine contrôlée Faugère,
oui,
et donc on raconte un petit peu le parcours et les raisons qui ont amené cette jeune femme qui travaillait, comme elle dit, derrière un ordinateur jusqu'à maintenant, à se lancer, à mettre les mains dans la vigne. Mmh. Donc, c'est un travail, elle a été évidemment accompagnée, elle a fait énormément de stages, de formations, elle a passé des diplômes. Là, elle travaille évidemment du côté d'Autignac. Ils ont trouvé une exploitation de 9 hectares. Et donc, en janvier 2023, elle sera vraiment vigneronne. Hein.
Oui.
Donc, c'est à la fois évidemment un travail... physique, hein, mais c'est aussi un travail, un pari sur l'avenir, pour pas que ces terres restent en jachère. Hein. Mm-hmm. Évidemment, c'est un travail aussi à deux. Et là, c'est la vigneronne et son époux qui va l'aider aussi sur le côté administratif et commercial.
Mmh.
Donc c'est un témoignage qui montre à la fois le côté vraiment passionnant et les raisons qui motivent cette personne pour embrasser ce métier qui n'est pas facile, hein,
mmh,
qui n'est pas du tout facile, hein, mais avec évidemment toujours au bout de la chaîne l'envie de faire découvrir et de faire goûter son vin et de le réussir.
Mmh.
Donc évidemment, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pour ça que nous avons aussi interrogé un vigneron aguerri, hein, c'est Patrick Compan.
Oui.
Alors lui, il est dans les Cévennes, hein, dans le piémont des Cévennes gardoises, hein, à Saint-Maurice-de-Cazevieille.
Mmh.
Et donc, il est aussi vice-président de la Chambre d'agriculture du Gard. Et il est chargé en particulier de la viticulture. Et donc, il accompagne vraiment ce qu'on appelle les néo-vignerons,
oui,
c'est-à-dire qu'ils soient jeunes en âge ou dans la profession et qui vont s'installer dans le territoire. Hein. Il faut savoir que les jeunes représentent, ces néo-vignerons représentent à peu près 20% de ce qu'on appelle les nouveaux vignerons.
Oui.
Et ils nous expliquent un peu toutes les aides aussi et tout le parcours L'aide à l'installation, notamment, c'est très, très important. Mmh. Elles proviennent à la fois de l'État, de l'Union européenne. Il y a un suivi aussi. Comme il le dit, on ne les lâche pas dans la nature. Hein.
Oui.
Et donc, c'est assez passionnant à lire. Il y a tout un catalogue aussi de formations. Hein. On le trouve aussi dans les chambres d'agriculture, la chambre d'agriculture de l'Hérault. Hein. Mmh. Alors, il nous explique aussi, concernant le réchauffement climatique, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'aide spécifique, hein,
oui,
mais il y a des aides pour la plantation de vignes et pour renouveler le vignoble et pour adapter les cépages au marché et aux contraintes climatiques. Mmh. C'est vrai que cette année, on a aussi le bilan des vendanges. Hein, ils ont vendangé très tôt.
Oui.
Par exemple, dans le Piémont Cévenol, ça a duré du 9 août jusqu'au 23 septembre.
Oui.
Et donc, ils ont choisi de laisser mûrir à leur rythme les cépages.
Mmh.
Et il annonce que malgré la sécheresse, tant en qualité qu'en quantité, ils vont avoir une belle récolte.
D'accord, parce qu'on aurait pu croire, en qualité, le taux d'alcool étant ce qui va être,
oui,
avec justement l'ensoleillement,
mais
en quantité, on se demandait.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur lequel nous arrêtons avec un autre article, c'est qu'il y a une cave coopérative dans le Gard, toujours, Héraclès,
ouais, ouais,
qui est très connue, hein, qui est un leader national de la vinification de vin bio, mmh, et qui va lancer une web-série en 11 épisodes,
ouais,
de 10 à 15 minutes, à destination notamment des lycées agricoles.
D'accord.
Et d'autres formations autour des métiers de la vigne et du vin. Donc là aussi, on voit que c'est un métier qui s'adapte et qui utilise les outils, on va dire, d'aujourd'hui,
ouais,
pour se faire connaître et donc susciter des vocations. Voilà, c'est ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est un métier d'avenir parce que c'est un métier qui n'est pas figé.
Oui.
Voilà, donc c'est un métier qui est toujours en mouvement. Et quand on est en mouvement et qu'on est dans le, on aime son métier et on le renouvelle, il a forcément de l'avenir. Et ce que nous expliquons dans ce dossier le 30 septembre.
Oui, et puis on peut dire vigneron, quel beau métier quand il est bien fait.
Exactement.
Allez, octobre est le mois dédié à la prévention du cancer du sein et la Marseillaise a choisi de présenter l'action de la ville de Frontignan qui se mobilise avec l'organisation de plusieurs événements grand public.
Oui, tout à fait. Alors la ville de Frontignan est très impliquée, donc ça va se traduire par une série d'événements. Il faut rappeler, avant de rentrer plus en détail dans ce que propose la ville de Frontignan, les deux tiers des cancers du sein se développent chez les femmes de plus de 50 ans.
Oui.
Elle est rare chez les femmes de moins de 35 ans et elle reste exceptionnelle chez celles qui ont moins de 20 ans.
D'accord.
D'où l'importance de la prévention et de la prise en charge précoce, hein, puisque comme nous le rappelle dans nos colonnes David Jardon, qui est un professionnel de santé à Montpellier, une prise en charge précoce, c'est 99% de chances de guérison à 5 ans. Donc ce n'est pas rien d'avoir ces actions pendant tout ce mois d'octobre. Alors évidemment, la ville de Frontignan, au-delà du fait qu'elle va éliminer l'hôtel de ville en rose à la nuit tombée à partir,
ouais,
du 1er août, hein, elle va organiser aussi à partir du 1er octobre, hein, à la Maison pour tous Désiré Archambault, des expositions. Il y a une trentaine d'œuvres qui vont être présentées. Elles ont été produites spécialement pour Octobre Rose par des artistes de deux associations locales. Donc
ouais,
à 11h, il y a le vernissage. Ça se fera aussi en présence des acteurs du milieu médical local qui,
ouais,
sont impliqués dans la lutte contre ce cancer. Donc c'est un moment à la fois de convivialité et d'échange. Donc voilà, il va y avoir une marche solidaire dans les Salins le 23 octobre. Donc on donne tout le détail de tous les événements dans nos colonnes là vendredi. Le 8 octobre, le 22 octobre, il y aura des stands d'information.
Ouais.
Donc vraiment, on a vraiment une mise en mouvement du milieu associatif et médical de la ville de Frontignan, de la collectivité, de la ville, pour faire de ce mois d'octobre un grand moment de prévention. Il y a aussi des projections de films. Oui. Donc voilà, il y a des professionnels du bien-être qui vont aussi être là pendant toute la durée du mois d'octobre, à des dates précises, mmh. pour proposer des soins chaque participant ou participant peut faire un don. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'inventivité pour qu'Octobre Rose ne soit pas simplement voilà, quelque chose qui revient tous les ans et qui, c'est le mois du dépistage. Oui. Donc, c'est vraiment concret, quoi. C'est vraiment du concret. Et c'est important de faire vraiment un zoom sur ce mois qui se déroule évidemment au niveau national, un peu partout évidemment, et dans l'Hérault, et Frontignan fait partie de ces villes très très volontaristes sur cet enjeu de santé publique.
Hein. Et oui, absolument.
Sachant que le dépistage est gratuit. Donc il est gratuit, en tout cas pour les femmes à partir de 50 ans, c'est complètement gratuit, et donc il ne faut pas hésiter à prendre 2 heures de son temps tous les 2 ans pour aller faire la mammographie.
À lire un autre sujet dans la Marseillaise également, la première édition à Montpellier de la Nuit du Droit qui se déroulera le mardi 4 octobre à la Cour d'appel de Montpellier.
Oui, alors là, on pourra rentrer dans la Cour d'appel de Montpellier dès la nuit tombée, avec, pour assister à des procès judiciaires et administratifs fictifs, des lectures théâtralisées de jugements ou de plaidoiries célèbres. Et il y aura aussi des expositions. Mmh. Alors, par exemple, il y a un procès qui va être rejoué, carrément. Il s'est déroulé le 20 août 1857. C'est Charles Baudelaire et son éditeur qui sont condamnés pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.
S'il y avait la censure avant.
Suite à la parution des Fleurs du Mal. Donc, c'était pas drôle à l'époque, hein, quand on était artiste, poète. On lui a fait retirer 6 poèmes de son recueil. Et en fait, on ne les a réintégrés qu'en 1957. Hein. Mm-hmm. Pendant un siècle, ces six poèmes ont été retirés, censurés. Et c'est la Cour de cassation qui, en 1957, va annuler la condamnation. Donc ça, c'est vraiment l'exemple vraiment emblématique de ce qu'on peut apprendre lors de cette nuit du droit qui se déroule donc à Montpellier. Oui. Donc paradoxalement, c'est la première édition à Montpellier, qui est une grande ville quand même connue pour la qualité de son université. Donc c'est très intéressant. Il y a déjà 600 personnes qui se sont inscrites. Hein. Ouais. Il doit rester de la place, mais il ne faut pas tarder. Et comme nous l'explique Iris Christol, qui est co-bâtonnière à Montpellier, le but de la manifestation, c'est d'ouvrir les juridictions aux gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller, ou bien uniquement à l'occasion d'un événement qui peut être très inconfortable quand on y va, voire dramatique. Hein. La fascination qu'on a tous pour le monde de la justice, il va être assouvi lors de cette nuit. On va pouvoir rencontrer et donc discuter avec ces professionnels du droit. Oui. Et ça nous semble intéressant d'inviter les lecteurs et les auditeurs, hein, puisqu'il y a aussi un atelier, par exemple, hein, pour qui vont expliquer les différents métiers de la justice. Hein. Ouais. On peut citer les notaires, les avocats, les juges, les commissaires de justice, les conseillers à la Chambre générale des comptes, les greffiers. Donc il y a une pléthore de métiers qui seront bien expliqués. Et on aura aussi, parce qu'on parlait du procès de Baudelaire, il y a la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès contre l'avortement à Bobigny en 1972, ou encore le discours de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort en 1981. Mmh. Donc c'est un moment qui va être intéressant. Voilà, la première nuit du droit à Montpellier. On peut s'inscrire auprès de l'Office du tourisme. On donne toutes les indications dans la Marseillaise vendredi. On peut déjà le faire dès l'écoute de la présentation de nos titres. Hein. même si c'est très très, ça a déjà été un peu pris d'assaut, mais oui. Il peut rester de place.
Oui, parce que c'est une façon ludique au final de découvrir une institution qui nous concerne tous et que l'on
oui.
méconnaît.
Et que l'on méconnaît, qui peut être très intimidante, alors que bon, ben là, c'est la justice et le droit, c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est un service public et ça concerne tout le monde. Et connaître, c'est très important de la connaissance. C'est quand même quelque chose qui arme pour pour être bien dans la vie et pour voilà. Donc c'est vraiment un acte aussi très citoyen de la part de ces professionnels qui se mobilisent.
Mmh. Sur le plan social, la Marseillaise revient en images sur les mobilisations dans l'Hérault, des syndicats notamment, pour les augmentations de salaire.
Oui, donc c'est la grande journée du 29. D'ailleurs, c'est l'objet de notre dossier qui est dans l'hebdomadaire qui est actuellement en kiosque encore. Hein. Mais dans le prochain, évidemment, qui paraît vendredi, nous rendrons compte par l'image de la mobilisation qui se déroule à l'appel d'une intersyndicale CGT, FSU et Solidaire sur la question centrale de l'augmentation de salaire dans le contexte de flambée des prix. Pour résumer, en gros, ce que nous disent les responsables syndicaux et les salariés, c'est que tout augmente sauf les salaires.
Et
donc
oui.
C'est la question centrale de cette journée d'action. Et comme on parle aussi de crise sociale et de crise de l'énergie avec la flambée des prix et qu'on rentre dans l'hiver...
Et qui vont flamber encore plus avec les attaques justement sur les deux gazoducs en mer Baltique.
Exactement. Donc là, c'est encore un contexte géopolitique et international qui est très, très... très instable et on va dire très anxiogène aussi. Hein,
oui.
Et donc en tout cas, nous, on nous a ouvert nos colonnes en les rencontrant aux travailleurs de l'énergie, justement,
oui.
Via le syndicat CGT, syndicat majoritaire dans cette profession, donc le syndicat CGT Mines Énergie de l'Hérault et de l'Occitanie, et qui nous rappelle... les raisons d'abord de la crise, à savoir il y a un problème de production, de manque de production en France à cause du manque d'entretien, notamment des centrales nucléaires. Hein, et il y a aussi évidemment la question de fond, c'était l'ouverture à la concurrence
et
du
voilà.
marché de l'énergie dans les années 2000. Hein, on a fait miroiter notamment aux populations que ça se traduirait donc par la baisse du prix de l'énergie. Au contraire, ça se traduit par de la spéculation et donc la flambée des factures.
Oui.
Donc il nous explique tout ça de façon, on va dire, très pédagogique et très didactique. Et c'est pour montrer aussi qu'il y a d'autres choix qui sont possibles, qui sont des choix, on va dire évidemment politiques, hein, des choix de société quelque part, hein, de réinventer un grand service public de l'énergie, l'énergie étant un bien commun, hein, et ne devrait pas coûter des sommes mirobolantes. On est quand même dans un pays où on a 12 millions, entre 12 et 13 millions de personnes qui sont en précarité énergétique.
Ouais.
Et les propositions qui sont faites, notamment pour protéger ou pour faire en sorte que les logements ne soient plus des passoires énergétiques, ne sont pas à la hauteur. Donc voilà, donc ils nous expliquent tout ça. Évidemment, pour eux, la solution, et c'est vraiment le cœur de leurs revendications, c'est sortir du marché de l'énergie et passer par une nationalisation d'une entreprise intégrée, à savoir, quand ils disent intégrée, pour bien comprendre, c'est la production, le transport et la distribution, car tout a été cassé.
C'est pas vers ce quoi se dirige le gouvernement, notamment pour la nationalisation.
Donc, c'est bien pour ça qu'il y a des journées de mobilisation sur les salaires et les salariés de l'énergie en seront aussi. Ils militent aussi beaucoup pour la baisse de la TVA. Hein.
Oui.
Donc, elle a eu une baisse, voire à 5,5, voire à 0%. Donc, ils disent, hein, pour Marc Michel, qui est responsable du syndicat CGT Mines Énergie de l'Hérault, explique très bien que le gouvernement ne veut pas absolument pas en entendre parler. pour lui, il propose des mesurettes. Ouais. Bon, c'est toujours bon à prendre pour les citoyens qui vont bénéficier, mais il dit que ce n'est pas suffisant.
Ouais.
Voilà.
À lire dans la Marseillaise à partir de vendredi. Côté culture, les Montpellierains vont pouvoir reprendre le chemin de la librairie Le Grain des Mots qui avait subi les intempéries de ce début septembre 2022.
Oui, oui, il y avait eu un gros dégât des eaux à la mi-août. Le Grain des Mots il déménage provisoirement dans un local après une fermeture forcée d'un mois et demi. Évidemment, ils sont ravis de retrouver leurs lecteurs à partir du 1er octobre, donc à partir de samedi. Ça sera au 15 boulevard du Jeu de Pommes. Mmh. Bon, c'est vraiment pas loin, à deux pas de son adresse historique. Hein. Il va y avoir d'importants travaux. Ils espèrent évidemment réintégrer leur lieu d'origine. Hein. Et Romain Demante, donc le responsable de la librairie, dit que c'est quand même inespéré d'avoir ce local provisoire. Hein.
Ouais.
Il dit que tout est prêt, c'est spacieux, c'est lumineux. Donc ils ont fait un grand déménagement, ils sont en train de tout préparer, ils donnent le dernier petit coup de pinceau ou montent les étagères pour ce nouveau départ. Évidemment, économiquement, ils préparent ardemment les fêtes de fin d'année. Hein,
oui.
C'est-à-dire que pour eux, ils auront ce qu'ils appellent la queue de comète de la rentrée littéraire, hein, avec tous les prix qui ont été décernés. Mais c'est vrai que c'est important pour les librairies indépendantes de pouvoir mettre en avant aussi les auteurs qui obtiennent des prix et qui ont du succès. Ça amène aussi le public à découvrir d'autres titres qui sont promus par les librairies indépendantes. Mmh. Hein. Samedi, à partir de 18h, hein, pour ceux qui veulent aller les saluer, donc ils vont célébrer la réouverture à la nouvelle adresse autour d'un petit apéritif musical.
Mmh. Bon, en tout cas, je pense que ça aura un franc succès, puisque c'est un peu une librairie mythique, indépendante de Montpellier. Et puis bon, il faut rajouter aussi que ces librairies sont primordiales, puisque ben, par exemple, quand vous allez acheter votre livre sur Amazon ou dans des grands groupes, vous n'avez pas le conseil que vous pouvez avoir dans ces librairies.
Mais non, il ne faut absolument pas, il faut bannir les plateformes pour les livres. Il faut aller rencontrer les libraires, il faut musarder dans les librairies.
Oui. Et notamment, le gouvernement augmente les frais de port sur Amazon justement pour pallier à ça un petit peu.
Il faut des mesures, hein, il faut aider, il faut soutenir le livre. Alors nous, à notre place où on est, évidemment, quand on en rencontre dans le journal, dans la Marseillaise, et puis en tant que lecteur et lectrice, on va dans les librairies indépendantes.
Et oui. En tout cas, chers auditeurs, soutenez vraiment la librairie Le Grain des Mots que l'on adore chez Divergence FM.
Et oui, et nous aussi.
Allez, pour terminer, on se dirige dans le Gard et plus particulièrement à Nîmes pour parler de la programmation du lieu Triptyque Théâtre.
Oui, alors la culture n'a pas de frontières, donc nous passons du côté du Gard, mais je suis sûre que les auditeurs de Divergence apprécient aussi Nîmes. Et donc il y a un lieu qui est fantastique, qui s'appelle le Triptyque Théâtre, et en fait c'est la maison du théâtre des littératures à voix haute.
Ouais.
Et donc la saison va être lancée le 6 octobre. Hein. Avec des moments phares, hein, notamment la première quinzaine qui va se tenir autour de l'écrivaine sicilienne Goliarda Sapienza,
oui,
qui a été découverte il y a déjà une petite vingtaine d'années en France avec L'Art de la Joie, son grand livre. Elle n'était pas éditée en Italie, elle a commencé à être éditée par Actes Sud en France, elle a été découverte après en Italie. Et au moment où l'Italie est vraiment dans une situation politique dramatique, hein, puisque les dernières législatives, avec un taux d'abstention très important, une partie de l'électorat qui ne s'est pas déplacée, et la coalition de droite et d'extrême droite l'a emporté, c'est important, et notamment ce que nous dit notamment le responsable Denis Lannoy du Triptyque Théâtre, c'est que dans ce contexte politique actuel, c'était vraiment une bonne intuition de mettre en avant Goliarda Sapienza.
Ouais.
Il y aura donc sa traductrice, Nathalie Castagnier, qui sera accueillie notamment le 13 octobre à Nîmes. Et ça commence le 6 octobre, donc avec une lecture d'extrait de L'Art de la joie. Évidemment, mi-décembre, il y aura aussi un autre temps fort. C'est une grande conférence hommage dans le grand auditorium de Carré d'Art sur Louis Aragon.
Ouais.
Donc ça sera le poète Olivier Barbaran qui animera ce colloque. Hein. Et donc c'est à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de Louis Aragon. Donc, c'est aussi l'occasion d'entendre les poèmes qui vont être dits. Et c'est toujours un moment précieux, un moment très enrichissant.
Mmh.
À noter aussi que au niveau des tarifs d'accès, le Triptyque Théâtre est gratuit pour les étudiants, et pour les moins de 18 ans.
Ça c'est très
donc
bien.
Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment une décision et un geste vraiment fort.
Mmh.
On sait que l'accès à la culture est compliqué.
Et oui, on en parlait sur les ondes avec vous dans Quoi de Neuf notamment.
On en parlait avec les étudiants du SCUM. Hein. Donc ça sera gratuit pour les étudiants et pour les plus jeunes. Donc les familles ou les parents qui veulent y aller avec un enfant de moins de 18 ans, un jeune adolescent, ils ne paieront pas pour l'enfant et c'est toujours très bien. Comme nous explique Denis Lannoy, le lieu culturel, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et vous ne voulez pas que la culture soit sacrifiée une fois de plus, hein, surtout qu'on sort de 2 années de pandémie où les lieux de culture ont été énormément souffert et ont été coupés du public. Hein. Donc ils n'ont pas augmenté les tarifs, ça c'est déjà une chose. Et il y a gratuité pour les étudiants et pour les moins de 18 ans.
C'est quasiment une volonté presque politique de faire cette politique tarifaire, puisque la culture est le seul rempart face à cet obscurantisme qui ressort un petit peu dans beaucoup de pays maintenant.
Bruno, vous l'avez dit bien mieux que moi, tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment à noter, c'est que la Maison Théâtre, elle va aussi maintenir l'organisation de ses lectures domiciliées.
Mmh.
Alors, c'est des toutes personnes qui veut partager un moment littéraire avec ses amis ou sa famille à son domicile, peut contacter le Triptyque Théâtre et puis ça s'organise.
D'accord.
Donc c'est vraiment très bien. Et il y a des séances aussi de poésie classe. Donc ça, c'est un petit clin d'œil parce que c'est un jeu de mots avec les enseignants et dans les écoles, hein, dans les collèges notamment, et les lycées. Et comme nous dit Denis Lannoy, c'est un beau moment artistique avec une lecture émotionnelle accompagnée d'un partage des mots et leur sens.
D'accord.
Voilà, donc 16e saison, ouverte à tous, le Triptyque Théâtre.
Et on peut rappeler que tous ces titres que l'on vient d'évoquer avec vous, Françoise, sont à retrouver dans la Marseillaise de ce vendredi en kiosque. Et puis je vous rappelle aussi que vous avez le site internet de la Marseillaise où vous avez plein de contenus additionnels. On ne peut pas tout rentrer pendant cette demi-heure que l'on passe ensemble, Françoise.
Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.